Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
La deuxième heure de l'Intégral Sport, toujours en compagnie d'Olivier Giraud. Tout va toujours bien?
Écoute, nickel.
Mais oui, on est bien, on est heureux de vous accompagner. On va délaisser un petit peu le foot de côté. Et c'est normal, il n'y a pas que ça sur la planète sport. Bienvenue, si vous nous rejoignez, tout de suite, du basket au programme avec le pivot de l'équipe de France de basket, Vincent Poirier, qui sera avec nous. La France qui dispute en septembre le championnat d'Europe en Allemagne. Objectif, le titre de champion, comme en 2013 avec la génération Parker. Et là, cette nouvelle génération qui est arrivé aux affaires avec un nouveau capitaine, Evan Fournier, qui a été désigné aujourd'hui. Cette génération est extrêmement ambitieuse après la médaille d'argent au JO de Tokyo. De l'escalade, car dans une semaine, plusieurs championnats d'Europe se dérouleront en même temps, athlétisme, natation notamment. Et l'escalade, nouvelle discipline olympique il y a un an, verra une belle délégation. Et ça séduit de plus en plus de monde. Damien Hue, le directeur des équipes de France à la Fédération de montagne et d'escalade, nous parlera de ses objectifs sur surtout à 2 ans, tout pile, des Jeux Olympiques. Et puis du rugby, avec le seul club promu cette saison en top 14, l'Aviron Bayonnais, qui a pris la place de son voisin, le Biarritz Olympique. Le président de l'Aviron, Philippe Taïeb, sera avec nous. Hashtag RMC Live, appli Direct Studio. Et le 32-16 est ouvert pour vos réactions. L'équipe de France masculine de basket a débuté sa préparation pour l'Euro il y a une semaine tout juste. L'Euro qui se déroulera en Allemagne début septembre. Objectif, la médaille d'or pour les Bleus vice-champions olympiques. Et nous sommes avec le pivot qui était de l'aventure à Tokyo, Vincent Poirier. Bonsoir Vincent.
Bonjour.
Vincent, voilà, comment s'est passée cette première semaine de prépa entre tests médicaux au début? Vous avez aussi droit à une petite journée média avec la visite des journalistes. Et surtout, on a vu un petit peu sur les séquences sur les réseaux sociaux, beaucoup d'intensité sur les oppositions.
Ouais, on a commencé fort. On avait hâte de rentrer dans le vif du sujet. Déjà les deux premiers jours, on a commencé l'opposition que le troisième jour. Donc c'est vrai que toute l'équipe avait envie de commencer les choses sérieuses. Donc voilà, on sent une motivation, on sent que tout le monde est motivé, et que tout le monde a envie d'aller vite à la compétition. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà, il y a beaucoup d'intensité aux entraînements, on a beaucoup d'entraînements aussi. Donc voilà, ça se passe bien pour l'instant.
Est-ce qu'il n'a pas fallu calmer un petit peu tout le monde du côté du staff, parce que vous aviez peut-être hâte de reprendre fort après voilà, cette coupure aussi, de vous retrouver tous ensemble après l'aventure olympique il y a un an?
Ouais, c'est ça. Il y a eu quelques entraînements où ça devait être un peu plus relax, et voilà, les joueurs font que ça a fini avec beaucoup plus d'intensité. Mais ça, on le contrôle pas. C'est difficile pour nous les joueurs de contenir l'énergie, de contenir les envies, etc. Donc voilà, il y a eu 2-3 fois où c'était plus intense que prévu, mais c'est bien, ça annonce que tout le monde est prêt, que tout le monde a envie de vite attaquer les choses sérieuses.
Avec cette mauvaise nouvelle nous est parvenue hier, la blessure de Mustapha Fall à l'intérieur, depuis 2017, tu as ce point commun avec Evan d'avoir manqué aucune campagne, l'Euro il y a 5 ans, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas la poisse qui arrive toujours à un moment donné à cette équipe de France quand elle se prépare en août? Il y a toujours une mauvaise nouvelle malheureusement.
Ça arrive, ça fait partie du sport. On sait très bien que voilà, c'est jamais facile de reprendre avec une blessure. Comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'intensité et des fois les corps mettent un peu plus de temps et voilà, kiffent pas. Donc ça fait partie du jeu aussi d'avoir des blessures. Maintenant, faut pas que ça nous empêche de continuer à progresser et de travailler. Voilà, malheureusement, mon gamousse, il pourra pas le faire, mais voilà, on va tenter d'assurer le truc quand même sans lui. C'est l'avantage de l'équipe de France, malgré qu'il y ait des blessés, on a toujours un réservoir de joueurs importants et ça nous permet de continuer à performer.
Ça commence à faire une petite longévité, Vincent. Je te le disais, tu n'as pas manqué de compétition depuis 2017, avec en plus des responsabilités, des temps de jeu et des points qui ont augmenté. Là, parce que Nando De Colo n'est pas là, Nicolas Batum aussi, mais il avait déjà fait l'impasse sur l'Eurobasket 2017. Ça, non pas que tu te considères comme un taulier, mais cette régularité t'en tire une fierté d'avoir finalement pu être sélectionné à chaque fois pour les derniers rassemblements avec l'équipe de France.
Ah oui, non, c'est sûr. Et puis surtout que j'ai eu des moments dans ma carrière où voilà, j'étais pas encore sûr et j'ai su faire les bons choix pour convaincre le coach. Donc je suis très content de chaque été revenir en équipe de France et de continuer à évoluer au plus haut niveau international. Donc voilà, c'est une fierté pour moi. Et j'espère que c'est pas fini.
En quoi le Vincent Poirier de 2017 qui sortait d'une très bonne saison au Paris Levallois à l'époque, depuis de l'eau a coulé sous les ponts pour le club de Levallois et des Métropolitains aujourd'hui, et le Vincent Poirier de 2022 qui joue le top européen avec le Real Madrid?
Ah bah, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'expériences engrangées, beaucoup de maturité, beaucoup de choses. J'ai gagné des choses, des médailles entre temps. J'ai vécu la NBA. J'ai gagné avec Madrid. Donc c'est deux époques différentes. Et quand je suis arrivé en 2017, voilà, j'étais le petit jeune en bout de banc qui vivait sa première campagne. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, j'ai un rôle, j'ai une importance dans l'équipe. Donc voilà, je suis peut-être pas un taulier comme peuvent l'être certains autres, mais je suis toujours là et je fais toujours le taf qu'on me demande de faire saison après saison.
Vincent Poirier, le pivot de l'équipe de France de basket, est avec nous dans l'Intégral Sport. Vincent, c'est vrai que on a été habitué, notamment l'année dernière, avec le discours de Evan Fournier, Rudy Gobert. Nous, on veut la médaille d'or, en parlant des Jeux Olympiques. Là, j'imagine que les mots sont les mêmes. On veut la médaille d'or pour ce titre européen, ce championnat d'Europe.
Oui, bah de toute façon, ça fait trois épopées que maintenant c'est le discours est clair, que dès qu'on vient en équipe de France, c'est pour ramener l'or. On a eu le bronze au championnat du monde, l'argent aux Jeux Olympiques, et voilà, donc chaque année c'est la médaille minimum et voilà, on est là pour gagner. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Quand tu viens en équipe de France, tu sais que t'as la pression du résultat parce que tout le monde se la met intérieurement et tout le monde veut réussir et tout le monde veut gagner. Donc c'est un challenge chaque été de venir et de rejoindre le groupe, et on sent que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Est-ce que tu as découvert la NBA, notamment avec les Celtics de Boston, après une quarantaine de matchs, est-ce que tu y penses encore ou tu as écrit un chapitre NBA et la page est tournée?
Non, j'y pense encore. Après, plus les années passent, plus j'y penserai moins, je pense. Mais ça reste toujours dans un coin de ma tête. Pourquoi pas retenter l'aventure. Après, là, pour l'instant, je suis très content à Madrid, je suis très heureux, ça se passe très bien. Je continue à performer, et c'est le plus important. Mais voilà, on verra dans le futur ce qui peut se passer. Après, on ferme aucune porte. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité plus que ça.
Tu es vraiment épanoui à Madrid. On se souvient, on avait dû t'avoir sur l'antenne en 2020, juste après Boston. Je crois que tu venais d'être papa, d'avoir un enfant. Ça aussi, on sait que c'est important pour un sportif de niveau, toute cette cellule familiale, avec Real Madrid, les titres, jouer aussi les premiers rôles, des responsabilités au Real. Tu te sens vraiment épanoui comme jamais?
Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. C'est la différence entre le Vincent de 2017 et le Vincent de 2022. Voilà, j'ai ma famille qui est là, j'ai tout ce qu'il me faut à Madrid, je suis très bien entouré. Et voilà, j'ai des responsabilités dans la meilleure équipe d'Europe. Dans une très belle ville. Donc oui, je suis très heureux, très épanoui.
Un peu plus proche de la France, on sait que tu as des racings en région parisienne. Tu as débuté en Seine-et-Marne, c'est ça, dans un petit club de Seine-et-Marne?
Ouais, exactement, Bus Saint-Georges.
La proximité aussi, être proche de la France, c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur, ou l'Espagne,
ouais,
c'est pas la première fois, on t'avait vu à Basconia aussi.
L'Espagne, c'est un pays où ça se rapproche vachement de la France, donc au niveau culturel, etc., c'est similaire. En plus, il fait beau. Et moi, ça me permet d'être à 1h30 de Paris et de pouvoir voir ma famille quand j'ai un peu de temps et de les faire venir aussi. Donc, c'est vrai que Madrid, c'est vraiment un tout rassemblé qui fait que c'est parfait pour s'évanouir.
Avant de se quitter, Vincent, c'est vrai que vous avez été pas mal titillé sur le sujet, Joël Embiid, lors de la disponibilité presse. Une question pour les auditeurs. Effectivement, Joël Embiid a sa nationalité française. Il n'est pas là. Le sélectionneur a dit, quand il sera sélectionnable physiquement et avec son passeport, il pourra venir. Mais le regard, c'est une force de plus. C'est comme ça que vous le percevez, vous ?
Bah oui, forcément. C'est Joël Embiid. C'est pas n'importe qui. C'est pas... Voilà, on sait que c'est un très gros joueur qui prouve chaque année en NBA. Moi, je le connais personnellement parce que j'ai joué avec lui en plus. Je sais que c'est un bon gars, je sais que voilà, il n'est pas prise de tête, etc. Donc voilà, ça sera un plus pour l'équipe de France, c'est sûr.
Jouer au Philadelphia Sixers où tu as également fait un passage. Il n'y a pas eu que Boston en NBA. Merci beaucoup, Vincent. Les Bleus qui se préparent avec un match dimanche du côté de Rouen, un match de préparation France Pays-Bas la Kind Arena de Rouen. Merci beaucoup, Vincent, et on vous souhaite tout le bonheur pour cet Euro qui débute fin août et tout le mois de septembre. Un Euro que vous pourrez suivre sur RMC. Merci, Vincent.
Merci. Ciao.
On a hâte de les suivre, les joueurs de l'équipe de France, Olivier. Le basket, sport collectif majeur, surtout il y a un an, ils battaient les Slovènes. Cette demi-finale magique au JO avec ce compte de Nicolas Batum. Ils seront forcément à suivre pendant 7 euros et jusqu'à 2024.
Ah bah, effectivement, c'est une équipe qui a un potentiel, un réservoir aussi. On voit le nombre de pivots potentiels pour cette équipe, de pivots de très 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 haut niveau. Et on sait à quel point ça compte pour aller dans les victoires. Il suffit juste de penser à l'hégémonie Gasol en Espagne pendant très très longtemps. Cette équipe de France, elle est ambitieuse et c'est quelque chose qui a énormément changé. Ça veut dire que quand elle attaque une compétition, quel que soit l'effectif proposé par Vincent Collet, un seul objectif, la victoire.
Vincent Collet qui sélectionnera dès que possible Joël Embiid. Il a obtenu sa nationalité française. Là, on attend le passeport et aussi qu'il soit apte physiquement puisqu'il s'est fait opérer du plancher orbital. Ça change quand même la donne pour 2024.
Effectivement, ça va faire une base intérieure, rebond, défense, juste incroyable. Quand tu sais que Rudy Gobert, c'est juste
le meilleur défenseur du monde.
Cette équipe de France, elle est prometteuse, elle est ambitieuse et le championnat d'Europe, finalement, c'est une manière aussi de réviser, de se rencontrer et avec l'objectif de gagner. Donc, on va effectivement suivre cette équipe parce que l'équipe de France peut devenir dans les deux ans tout simplement l'une des meilleures équipes du monde, voire et on l'avait vu sur les Jeux Olympiques, maintenant rivaliser avec les Américains, ce qui n'est pas rien.
Premier match pour ces Bleus, ce sera le 1er septembre contre l'Allemagne à domicile à Cologne dans cette magnifique salle, la Lanxess Arena. RMC sera sur place dès le début pour vous faire vivre toute cette aventure des Bleus et pourquoi pas par une finale en apothéose qui aura lieu à Berlin et un titre de champion d'Europe. C'est tout le mal que l'on souhaite aux Bleus qui auront un premier match de préparation dimanche après-midi. France-Pays-Bas à Rouen. On parle escalade, on va essayer de grimper aussi, monter au sommet avec le directeur des équipes de France à la Fédération française de montagne et d'escalade, Damien Hue, qui nous parlera des championnats d'Europe qui vont débuter dans un petit peu moins de 10 jours. On en parle tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Avec Olivier Giraud, on est ensemble jusqu'à 20h pour balayer toute l'actualité sportive. À 20h, vous retrouverez l'after puisque la Ligue 1 repart avec ce premier match de cette première journée. Olympique Lyonnais AC Ajaccio à vivre en direct et en intégralité. Nous, à 19h18, on accueille le directeur des équipes de France à la Fédération française de montagne et d'escalade, Damien Hue. Bonjour Damien.
Bonjour à tous.
On est heureux de vous accueillir puisqu'il y aura un beau programme à venir avec les championnats d'Europe à Munich de plusieurs disciplines dont l'escalade. Et puis également un petit peu l'actualité puisqu'on a le programme officiel pour les JO de Paris 2024, l'escalade avec deux épreuves qui seront au programme. Attaquons avant de parler des JO, Damien, sur ce championnat d'Europe. Vous venez d'annoncer la sélection. On retrouvera des visages que l'on a bien vus aux Jeux Olympiques. On peut penser aux frères Mawem, Mikael et Bassa. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que ce sont un petit peu les anciens ou les leaders de cette délégation?
Ouais, c'est les anciens. Alors Bassa reste le leader en vitesse. Alors Bassa, il s'est blessé, tout le monde l'a vu.
Au JO, oui.
Voilà, il s'est déchiré le biceps. Donc là, il revient petit à petit. Donc son ambition cette année, c'est revenir à son niveau qu'il avait pour Tokyo, et puis évidemment il a des ambitions fortes après sur les JO de Paris 2024. Il faut savoir que le lendemain de sa blessure, Bassa était déjà focus sur Paris. Donc pour vous dire un petit peu la motivation de Bassa là, sur ce genre d'événement. Après là sur les championnats d'Europe, voilà, il revient petit à petit dans la course. Je pense que s'il revient, c'est pas pour rien, clairement. Maintenant voilà, il faut lui laisser un petit peu le temps aussi de reprendre un peu ses repères sur ce genre d'événement à titre. Voilà, puis après ben Mika, il est un petit cran en dessous là cette saison, mais il doit, vous savez, à Tokyo, il y avait trois disciplines, le bloc, la vitesse,
la difficulté.
Voilà. Et là, sur Paris, il y aura.
Alors oui, puisque vous me lancez, Damien, on peut en parler parce que c'est la changement. C'était un combiné à Tokyo des trois épreuves, et c'est vrai que quand on avait parlé avec les grimpeurs en présentant cette nouveauté au JO, bah, ça tiquait un petit peu des dents parce que la vitesse, qui est l'épreuve la plus spectaculaire, est un petit peu différente du bloc où on résout cette énigme et on doit aller chercher la base, aller toucher la pierre qu'il faut, et de la difficulté avec une voie où voilà, on est avec un fil. On disait la difficulté et le bloc, ça se ressemble. La vitesse, ça rien à part. Bah là, vous avez eu quelque part gain de cause au niveau des grimpeurs à l'échelle mondiale, puisque à Paris, il y aura la vitesse d'un côté et un combiné bloc et difficulté, donc deux médailles d'or.
Exactement. Donc ça, c'est mieux. C'est mieux, même si l'ambition de la Fédération internationale et aussi des grimpeurs, c'est d'arriver à avoir trois épreuves différentes avec trois médailles. Mais franchement, à Paris, avec un combiné bloc difficulté puis la vitesse séparément, c'est clair que c'est mieux pour, je dirais, pour les grimpeurs. C'est comme ça qu'ils sentaient beaucoup mieux le truc. Donc oui, ça va être mieux. Par contre, c'est encore une fois un nouveau concept, un nouveau format pour lequel il va falloir s'adapter. Et là, si on revient un petit peu sur le championnat d'Europe, ça va être la première fois qu'on va voir se dérouler le format olympique du combiné bloc difficulté sur championnat d'Europe. Alors il y aura que la partie finale, puisqu'il y a deux tours, il y a un tour de qualification et un tour de finale. Donc là il y aura que les finales. Et par contre voilà, ça va être l'occasion d'expérimenter pour les grimpeurs, de prendre un peu des repères pour s'ajuster sur ce nouveau format quoi.
Olivier,
est-ce que vous avez senti depuis l'arrivée de l'escalade dans le Giro olympique un vrai changement? Il faut donner une base aussi, 40% des pratiquants ont moins de 18 ans. Est-ce que vous avez senti un vrai engouement, une vraie transformation? On parle beaucoup plus d'escalade aujourd'hui, on la comprend nous aussi les Béotiens beaucoup mieux, mais vous au niveau de la fédération, avez-vous vu une différence?
Alors bah oui, on voit une différence parce qu'on sent l'engouement général autour de l'escalade. On perçoit aussi que dans la pratique, que ce soit dans les clubs de la fédération et aussi dans les salles commerciales, beaucoup de gens qui pratiquent cette activité et des gens qui n'ont pas été initiés par d'anciens grimpeurs ou de grimpeurs, mais qui viennent d'eux-mêmes dans ces clubs pour s'initier à l'escalade parce qu'ils l'ont vu à la télévision, parce qu'aussi ils l'ont pratiqué à l'école. Hein. Ça fait, je pense qu'il y a quelques années, ça faisait un petit peu peur là de pratiquer l'escalade. Aujourd'hui, on peut aller pratiquer du bloc. C'est un maximum, grand maximum 4 mètres de haut. On tombe sur des gros tapis. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments pour pouvoir démarrer l'activité. Voilà. Alors après, l'escalade de difficulté, c'est-à-dire l'escalade sur corde, sur des murs de 15 mètres de haut, là, il y a besoin d'un petit apprentissage, il faut être accompagné un peu plus fortement. Et puis après, l'escalade de vitesse qui se développe un petit peu moins en France, mais qui plaît aussi aux tout jeunes. Là non plus, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour démarrer. Hein.
D'être au jeu, ça a tout changé pour la pratique de l'escalade ou pas, Damien, sur l'engouement? Ça a été véritablement un accélérateur, même, je pense, au niveau de licenciés, sur les indicateurs que vous avez?
Alors, licenciés, on a eu le Covid entre-temps, donc un peu compliqué. Par contre, avant le Covid, c'était la fédération, elle augmentait ses licenciés chaque année. Là, aujourd'hui, le frein au développement des licenciés à la fédération, c'est les murs, c'est les structures d'escalade. Un club qui a un mur à sa disposition, il va vite exploser. Voilà, il va arriver au taquet du nombre d'adhérents qu'il va pouvoir avoir dans son club. Donc, la limite aujourd'hui de développement, nous, c'est ça en fait. Voilà, c'est les murs d'escalade.
Sur les Jeux Olympiques, parce que nouvelle discipline, confortée à Paris 2024, c'est quand même un signe fort parce qu'on sait que le CIO est très vigilant au nombre de médailles qu'il doit donner pour les disciplines. On voit que ça réduit pas mal la voilure. Je pense un petit peu au canoë, au kayak, avec parfois des suppressions de catégories. Olivier, que le CIO en accorde une de plus à l'escalade, ça veut dire que franchement, les grimpeurs ont marqué pas mal de points à Tokyo.
Ben oui, parce que on va arriver sur les nouvelles pratiques, les pratiques spectaculaires. On s'est posé la question, et évidemment, le mouvement sportif se posait la question de l'arrivée de tous ces nouveaux sports, l'escalade de compétition, en tout cas sur mur artificiel. Je pense qu'une des premières compétitions, c'était à Vaux-en-Velin, c'était en France en 85, et que à l'instar du skateboard, il y avait deux philosophies, la philosophie compétition et la philosophie par les voies naturelles, comme on a pu le voir dans les années 80 et qui existe encore aujourd'hui. Et ces sports sont des sports attractifs, des sports modernes. Ça va pousser aussi les sports un petit peu plus anciens à se moderniser, à évoluer, parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on a 40% de gens de moins de 18 ans qui pratiquent ce sport, ça veut dire que il est attractif pour toute une nouvelle génération, ce que essaye de chercher un petit peu beaucoup de sports à garder leurs jeunes à l'intérieur de leur fédération. Donc oui, ces fédérations là plaisent aux jeux, plaisent au CIO, à l'instar du skateboard, du surf, le surf un petit peu plus compliqué, mais l'escalade ça s'instruit et s'inscrit dans l'avenir. Il y a un truc qui est important aussi, ce sont les sites. C'est comme beaucoup les infrastructures. La question que je voulais poser, on doit être fier quand même que cette infrastructure, une des rares qui va rester avec le centre aquatique de qualité, va rester après les Jeux au Bourget à Saint-Denis, c'est ça?
Alors oui, alors ça sera pas la structure, ça va être le mur d'échauffement en fait, qui sera quand même conséquent, hein, qui va rester à demeure pour les à Saint-Denis au Bourget. Et par contre le mur où il y aura l'épreuve des Jeux, celui-ci restera pas, il sera en extérieur, donc il restera pas. Par contre, le mur qui va être construit à l'intérieur pour l'échauffement, lui, il va rester.
L'héritage, voilà cette notion, héritage. Mais qui est importante, hein. Notamment le Bourget, la Seine-Saint-Denis, là où il y a beaucoup de choses à faire et de travail pour mettre tout le monde au sport. On parlait de la natation, voilà beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager encore en Seine-Saint-Denis. Olivier.
Non, j'allais dire la Seine-Saint-Denis, évidemment, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut quand même penser à ce que le développement du sport en France passe, et on n'en parle pas assez souvent, par le développement des infrastructures. Si on parle des infrastructures, tout simplement de la mairie de Paris, je pense que la mairie de Paris, en tout cas la ville de Paris, on va pas mettre ça sur le dos de la mairie de Paris, la ville de Paris est la mégalopole du monde, la moins équipée du monde. Et nous organisons les Jeux. Donc, il y a vraiment, dans le développement du sport, nous avons besoin d'équipements, mais pas seulement dans le 93, il en faut effectivement, mais dans toute la France. Et le vrai travail que nous avons à faire, c'est de mettre à disposition des équipements pour que les gamins puissent faire du sport, tout simplement.
Pour terminer, Damien, sur les championnats d'Europe qui débutent, dans une petite semaine à Munich, on parlait des jeunes. On a vu sur la sélection. Oriane Berton, 17 ans, grimpeuse en bloc et difficulté. C'est l'avenir, cette jeune fille qui incarne l'avenir pour 2024, ou c'est encore un petit peu tôt?
Alors, j'allais dire oui, bien sûr. Elle fait partie des jeunes comme Meji Chal qui a gagné l'étape de Coupe du Monde et qui a 18 ans, il n'y a pas très longtemps, comme Paul Janf qui a fait quatrième sur des étapes de Coupe du Monde et qui a 19 ans. Il y a une nouvelle génération là, qui arrive. Alors après. J'ai pas envie de leur mettre la pression à ces jeunes. Envie de leur laisser le temps d'arriver. Et puis si ça claque à Paris, c'est super. En tout cas, on les accompagne vers ça. Mais si ça claque à Los Angeles, parce qu'on sera aussi à Los Angeles, ça marche aussi. Voilà. Donc on va leur laisser le temps d'arriver. Ils ont fait des super résultats là en senior. Ils ont de quoi être ambitieux. Mais aussi avec les cadres, avec les anciens, là, comme Manu Cornu qui a fait troisième au championnat du monde à Moscou l'année dernière, comme Fanny Gibert qui a déjà fait des podiums, voilà, comme d'autres. Il y a une belle équipe de France qui veut relever le défi, qui est assez conquérante sur les étapes de Coupe du Monde. Et je pense que voilà, il y a un truc à faire sur ces championnats d'Europe. Voilà.
Et on suivra ces championnats d'Europe. On aura une équipe sur place pour RMC. On sera attentif évidemment à l'escalade qu'on avait bien suivi voilà aux Jeux Olympiques. On avait pris beaucoup de plaisir à vous suivre. Merci beaucoup Damien Hue, directeur des équipes de France à la Fédération Française de Montagne et d'Escalade. Très bon championnat.
Merci.
Alors là, on est content de parler de tous ces sports qu'on découvre. Moi, l'escalade, ça m'a vraiment conquis au JO.
Bah, moi aussi, et d'autres aussi. Hein. On n'a pas le temps d'en parler.
Le surf un peu moins, mais le surf, c'est peut-être le site qui avait fait.
C'est dépendant quand même des vagues, et c'est pour ça que le site, celui qu'on a pris pour 2024, est. On a
Tahiti, plus de chances effectivement, de ça chance risque de séduire, d'être vague. Très télégénique. On parle rugby dans un instant dans l'intégral sport, mais juste cette information en football, c'est officiel pour Jordan Vertu à l'Olympique de Marseille. Le club vient de l'annoncer. Il y a d'ailleurs une conférence de presse qui est en train de s'improviser, notamment avec Pablo Longoria qui est attendu à la commanderie. Vous aurez toutes les dernières informations à partir de 20h dans l'after qui va revenir sur tout ça et sur la première journée de Ligue 1 qui débute aujourd'hui. Avec Lyon AC Ajaccio à 21h sur RMC. Nous, on parle rugby. Le président de l'Aviron Bayonnais est avec nous dans un instant sur RMC. Philippe Taïeb.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Avec Olivier Giraud, on est ensemble jusqu'à 20h pour vous accompagner en ce vendredi soir. Soyez prudents, hein, vous l'avez entendu sur les difficultés sur la route. Olivier, on va parler de l'Aviron Bayonnais dans un instant.
Cool.
Ça te va, c'est un club que t'aimes bien.
Ouais,
le Pays Basque,
ouais,
une très belle région.
Superbe région. Voilà.
Est-ce qu'il peut chanter la Pena Bayona bonsoir ou il ferait Templier?
Non, ma religion me l'interdit. Bonsoir à toutes et à tous.
Je pense, on va pas.
Ah, c'est magnifique, à Jean Daugé. Faut vivre ça une fois dans sa vie à Jean Daugé quand même. Hein.
Et j'imagine que le président de l'Aviron Bayonnais ne nous dira pas le contraire. Bonsoir Philippe Taïeb.
Bonsoir, merci.
Bonsoir.
Toujours les frissons quand on entend la Pena Bayona, basque ou pas basque, hein?
En basque, je ne le suis pas. Par contre, c'est vrai que oui, c'est des émotions fortes, mais bon, comme certaines ont pu le vivre, c'est encore plus fort quand vous êtes à Jean Daugé. Je vous encourage à venir nous voir et nous rendre visite.
Les fêtes de Bayonne sont terminées, président.
Oui, je crois que c'était vraiment de très belles fêtes avec une grosse affluence. Bon, c'est vrai qu'il y a eu tellement de 2 ans sans fête, tout le monde avait besoin de ce moment de retrouvailles, de convivialité. Je crois que ça a été important pour le club aussi, parce qu'on a la chance d'ouvrir, de pouvoir ouvrir les fêtes avec les joueurs. Et on a été en 2019 aussi le club, les acteurs qui avaient aussi fait l'ouverture des fêtes de Bayonne en 2019. Mais c'est quand même c'est une ambiance qui est particulière, on voit tout le monde. Et on est dans un moment d'euphorie, de convivialité sur 5 jours. Et vraiment, c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie.
Les joueurs n'avaient pas de carte blanche quand même, président, sur 5 jours de fêtes de Bayonne.
Alors, les joueurs ne sont jamais là pour les fêtes de Bayonne, hein. Il faut le savoir. Ils étaient assez larrés en stage. Et bon, par contre, la tradition veut que le dimanche, on réunit l'ensemble des joueurs avec les épouses, les enfants, et on a un moment de convivialité sur le midi, l'après-midi. Bon, et puis après, le soir, quartier libre aux joueurs qui souhaitent passer aussi des bons moments entre eux, et puis aussi, s'imprégner de l'atmosphère et de l'engouement de la ville. C'est important de savoir ce qui se passe dans cette ville et ce que représente l'Aviron. Donc, les fêtes sont un indicateur important pour le connaître.
Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais, est notre invité dans l'Intégral Sport, Olivier.
Je me disais, il y a rien de plus formidable. Moi, en tant qu'handballeur, j'aurais adoré jouer dans la ville où il y a une fête comme ça, où en fait, pour la cohésion d'équipe, eh ben, t'as ce petit moment et c'est à l'intérieur de ta ville. Mais en plus, on les associe énormément, et on va peut-être sortir des fêtes de Bayonne à un moment, mais on les associe énormément au club de rugby. Ça fait partie un petit peu de la philosophie, de l'histoire aussi de votre club, président.
Ouais, mais vous savez, aujourd'hui, Bayonne, il y a la foire au jambon, il y a les fêtes de Bayonne et il y a l'aviron bayonnais. Donc, je crois que on est vraiment associés autour de la mairie qui nous accompagne depuis des années. Hein. C'est historique, mais c'est vrai que ces fêtes, ça caractérise un peu, je veux dire, l'ADN de la région, l'ADN aussi de notre club. Mais aujourd'hui, le professionnalisme fait que la fête est réservée aux gens qui... Je crois qu'ils ne pratiquent pas le sport comme on doit le pratiquer. Mais ça n'empêche pas qu'on se doit, dans la saison, d'avoir des moments comme ça, entre nous.
Et là, c'est en plus, c'est une communion totale avec le peuple bayonnais et les amoureux de Bayonne. Donc, je trouve que c'était c'est bien de le vivre. Et mardi, ils sont repartis à l'entraînement. Apparemment, ils étaient un peu fatigués. Mais je trouve que ça fait partie de notre culture et de notre histoire. Il faut la respecter.
Ah, moi, ça me parle.
On a donné feu vert toute la journée de dimanche aux joueurs et au staff.
Président, donc vous retrouvez le top 14 un an après l'avoir quitté. Et donc une page se tourne aussi avec le départ de Yannick Bru, l'arrivée de Grégory Pata. Alors deux questions en une. Pourquoi ne pas avoir continué avec Yannick Bru et qu'est-ce qui vous a intéressé dans le profil de Grégory Pata pour prendre la suite?
Et après, je veux dire, Yannick a fait un choix au mois d'octobre parce qu'on a voulu rapidement se positionner sur le projet futur. Et bon, Yannick a fait le choix de d'arrêter l'aventure avec nous, mais le boulot a été fait. Ils avaient quand même une mission, le staff. Il y a eu six remplacements, le staff ou 8, je crois. Il y avait une mission, c'était de faire remonter ce club en top 14. Et je crois que ça a été bien fait par les joueurs, par le staff, par les administratifs et par la direction aussi. On a mis beaucoup de moyens cette année dans cette équipe et pour la division. Donc c'est vrai qu'il y a eu de l'exigence, des fois avec certaines intentions, mais je crois que Yannick a fait le job depuis 4 ans. Il faut la remercier, ainsi que Vincent Mustaf qui est parti. Mais bon, c'est les règles du rugby, du sport professionnel. Il y a eu 4 ans, il aurait pu avoir plus. On avait des engagements de 4 ans de plus, mais bon, c'est vrai qu'avec le traumatisme du match perdu l'année dernière à Biarritz, bon, ça a remis un peu les... On a rebattu les cartes, mais bon, après, le choix est venu de Yannick au mois d'octobre, et nous, on a dû travailler sur la succession, et c'est vrai que Grégory remplissait quand même beaucoup de cases, dans l'état d'esprit, dans les valeurs, dans aussi l'expérience du haut niveau, avec la gestion des avants de La Rochelle, une gestion aussi de manager à Perpignan, à Auch. Donc aujourd'hui, la seule vérité, ça sera quand même... À la fin de la saison, avec le maintien, on peut faire toutes les théories du monde, avoir les meilleurs joueurs. La seule chose qui compte, c'est les résultats qu'on va pouvoir donner à notre public et surtout ce maintien qui est important pour nous.
Et pour aller chercher ce maintien président, c'est vrai que le monde du rugby a vu quand vous avez annoncé les arrivées de Maxime Macheneau et de Camille Lopez qui est de retour au pays. On s'est dit oula, là l'aviron bayonnais qui a ensuite gagné son ticket pour monter en top 14 arrive avec les dents acérées et que ça va pas être de la tarte d'aller à Jean Daugé. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment quand vous pouvez discuter avec des collègues présidents notamment que c'est du sérieux cette saison l'aviron bayonnais?
Mais on arrive, il y a l'arrivée des joueurs, mais c'est surtout aussi la fin de l'aboutissement d'un projet porté par des actionnaires locaux avec quand même des familles qu'il faut vraiment remercier parce que autour de moi, j'ai un conseil d'administration qui est représenté par 8 familles locales imprégnées dans la vie du club depuis des années. Et aujourd'hui, on a un nouveau stade, on a un centre d'entraînement qui se finit fin août, 4000 m² de centre de haut niveau. 18 arrivées de nouveaux joueurs avec des joueurs d'expérience, des joueurs de extérieur, avec des joueurs qui, je crois, qui ont aussi envie de vivre cette effervescence autour du club. C'est vrai que Camille et Maxime, c'est de l'expérience et vraiment merci à eux aussi parce qu'ils ont, ils auraient pu rester dans des clubs peut-être un peu plus aguerris que nous, mais ils se sont relancés un challenge pour maintenir l'aviron et je crois qu'aujourd'hui on s'est doté et on a fait tout ce qu'il fallait pour mettre ce club dans les bonnes conditions et dans les exigences du top 14. Hein. C'est un centre d'entraînement, un nouveau stade de 14 500 places, des hospitalités et une économie qui aujourd'hui se construit tous les jours, petit à petit. J'ai fait référence à Vincent Merlet, à midi j'ai déjeuné avec Vincent et je lui dis ce que lui a fait à 30 ans, nous on essaie de tous les jours de gagner un échelon, mais c'est vrai que c'est un modèle qui nous plaît parce que il est construit sur une économie réelle avec tout le monde, des abonnés, des partenaires, des institutions. Et c'est l'ADN aussi de Bayonne, qui est un club populaire. Et avec nos associations, nos socios, nos partenaires, et on n'a pas de zone de danger économiquement. Et on a réussi quand même cette année à construire 21,5 millions de budget, ce qui est le minimum pour pouvoir peut-être exister en top 14.
Olivier ?
Ce nouveau stade, ce nouveau centre d'entraînement, on sait que dans le rugby professionnel, il y a la partie GIF qui est importante. Est-ce que vous avez aussi axé cette nouvelle philosophie sur une formation un petit peu du cru, une formation locale? On sait que de grands joueurs, c'est important aussi lorsqu'on a une philosophie qui reste une philosophie basque. Est-ce que ça fait partie du projet?
Le projet a été annoncé avec, bien entendu, la priorité sera de faire monter nos jeunes. Alors, c'est vrai que les intégrer en Pro D2, c'est plus facile. Pour lui, il y a du talent, il y a de la formation. La preuve, c'est que AB Campus aussi va être le centre de formation. Hein. Et l'objectif, c'est aussi de faire revenir nos joueurs qui sont partis, qui nous ont quittés à des moments où peut-être le club ne répondait pas à leur attente. Mais oui, on a 6 ou 7 joueurs sur le championnat français. On souhaite qu'ils reviennent. Je le dis, pas de souci à le dire, et j'ai fait déjà passer des messages. Et on a la formation. L'année prochaine, on aura 12 ou 14 joueurs dans l'effectif senior, effectif équipe première, formés au club, des titulaires, des joueurs de l'effectif, et c'est important. Après, on avait fait le plein, je crois, au niveau des GIF, avant de monter en top 14. Dans notre première phase de recrutement, on avait 12 joueurs, dont 11 GIF. Donc c'est vrai que c'est un peu le problème de la montée de dernière minute où il faut aller chercher des joueurs. Et le marché est impitoyable et vous laisse juste les opportunités de recruter des joueurs extérieurs et étrangers. Mais aujourd'hui, on a vraiment notre projet est basé sur les joueurs formés au Pays Basque, issus de la formation mayonnaise et bien entendu les retours au club qui nous intéressent au plus profond de nous.
Merci beaucoup Philippe Taïeb, président de l'Aviron Bayonnais, Bayonne qui débutera sa saison à Toulon le 3 septembre prochain.
C'est très choc pour commencer.
Allez à Mayol. Effectivement, merci beaucoup, très bonne saison Philippe.
Merci beaucoup, merci à vous. Merci.
Et on suivra les aventures de l'Aviron Bayonnais sur l'antenne de RMC où vous pouvez suivre les matchs.
Il nous invite à 14.
Merci Wilfried.
Merci, ouais, il t'invite et t'as entendu, tu peux aller voir le nouveau Jean Daugé, tu vois, ça va être quelque
chose. Et en plus, si on prend exemple sur le stade Rochelet à Bayonne, ça va pas te déplaire.
Oui, on précise que Vincent Merlingue, pour les gens qui
président.
Sont président de La Rochelle avec qui il a déjeuné. et c'est vrai que La Rochelle avec ses, je sais pas combien, une soixantaine de guichets fermés de suite. Et
Marcel de Flandre, oui. Et puis les structures derrière, centre d'entraînement. Même avec le basket énorme. Aujourd'hui, on fédère d'autres sports sous la même identité.
Il y a le moyen de faire ça avec l'identité à Bayonne, effectivement.
Exactement.
Tout ce qui est autour, tu l'as dit, Olivier, sur cette identité basque et quand tu tapes dans une poubelle, il y a un rugbyman qui tombe.
C'est clair.
Un peu comme vers Toulouse, au Pays Basque, c'est un peu ça, donc il y a des moyens certainement à creuser là-dessus.
Merci Wilfried, bonne soirée.
Allez, bonne soirée.
Salut.
Alors, on revient dans un instant pour finir le dernier quart d'heure, on va avoir nos commentateurs de ce week-end. Pour la Ligue 1, on va faire un petit multiplex comme il y a d'habitude dans Rotten sans flamme qui reviendra lundi autour de Jean-Louis Tour. Il n'y aura pas d'intégral sport, Olivier, on cède notre
place. Il est de retour
place.
Le blond donc.
Et voilà. Tout à fait, vous verrez. Jean-Louis sera de retour, ça c'est sûr, de 18h à 20h. Nous, on poursuit donc pour ce dernier quart d'heure. On va parler des clubs bretons, notamment avec nos envoyés spéciaux. On sera également à Montpellier ou encore dans le Nord-Pas-de-Calais avec Jean Baumel. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Les 10 dernières minutes de l'Intégral Sport avec Olivier Giraud, vous venez de l'entendre. Lundi, Rotten sans flamme sera de retour avec Jean-Louis Tour et on avait envie de réinstaurer cette habitude du multiplex que vous avez entendu tous les vendredis soirs. On fait le tour de France avec nos correspondants, sont convoqués au tableau. Monsieur Jean Baumel des Hauts-de-France.
Salut Arnaud, bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous.
Salut.
Monsieur Julien Landry de l'Occitanie, allez, plutôt du Languedoc.
Salut Arnaud, salut Olivier, bonsoir à tous.
Et enfin, monsieur Xavier Grimaud de Bretagne. Salut Xavier.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Je vous rappelle les deux informations principales concernant la Ligue 1. Ça vient de tomber, c'est officiel. Pour Jordan Veretout à l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain s'est engagé pour 3 ans. Une conférence de presse est en cours avec Pablo Longoria. Vous aurez toutes les informations avec Florent Germain dans l'after qui arrive, l'after live à partir de 20h avec Gilbert Bribois. Et puis cette autre information, le groupe parisien pour le premier jeu de la saison du PSG demain à Clermont à 21h sans Kylian Mbappé touché à l'adducteur. Parmi les rencontres qui auront lieu ce week-end, direction la Bretagne, les Pays de la Loire, Xavier avec, c'est presque un week-end de derby, entre guillemets, derby des Pays de la Loire entre Angers et Nantes dimanche 15h et dimanche 17h, derby de Bretagne, Rennes-Lorient.
Oui, exactement. C'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de déplacements pour les équipes. Ils pourront venir en bus, notamment les Nantais d'Antoine Camboire, Angers-Nantes, avec une info concernant Angers, justement, qui vient de tomber. Il y avait la nouvelle tribune Saint-Léonard qui était présentée par le président du SCO d'Angers, Saïd Chaban, cet après-midi. Le stade Raymond Coppa qui va maintenant faire 19 500 places. Et Saïd Chaban vient d'annoncer que la vente du club, vous savez, au fonds d'investissement américain, je le cite, n'est plus d'actualité. Ah. Voilà, a priori, ça prend du temps, les audits prennent du temps. On a dépassé le cadre de la négociation exclusive, comme le veut la loi, dit Saïd Chaban. Donc désormais, il n'y aura pas de vente lors de la saison 2022-2023 pour ne pas déstabiliser le club et l'équipe. Peut-être une participation minoritaire, il n'exclut pas, mais il restera majoritaire toute la saison. C'est quand même une information importante parce qu'on parlait d'une somme très importante pour...
pas loin de 70 millions presque.
Ouais, exactement, ouais. Exactement, une somme qui était vraiment très 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 élevée. Donc il faudra attendre un petit peu pour vendre ses parts du côté du SCO. Ça c'est pour les coulisses, mais ça compte évidemment. Côté terrain, on va avoir une équipe d'Angers qui on va pas dire dans le doute, mais avec beaucoup de questions parce qu'il y a eu des départs très importants de cadres, hein, Romain Thomas, Ismaël Traoré, Vincent Manceau, Thomas Mangani, les cadres de la remontée du SCO. Et donc il y a beaucoup de nouveaux joueurs que l'on va découvrir dans l'équipe de Gérald Batic, Yaya Fofana, le gardien, Mia Blazic, l'international slovène, Sabanovic, le bosnien. Bref, il y a plein de nouveaux joueurs. Le retour d'Adrien Hunou aussi, l'ancien Rennais. Donc va falloir que la mayonnaise prenne. Et du côté de Nantes, Antoine Camboire est confiant, serein pour le mois d'août. C'est ce qu'il nous a dit en conférence de presse, parce que pour l'instant, il a son équipe avec l'ossature de la saison dernière. Ludovic Blas est là, Lafont est là, Simon est là. Par contre, il le dit, on a les moyens de faire un bon mois d'août. Après, clairement, le groupe n'est pas assez nombreux. Donc, petite pression sur ses dirigeants pour qu'ils recrutent, en attendant que Blas, éventuellement, Gibault, s'en aille peut-être du côté de Lille. Ça se rapproche.
C'est ce qu'espèrent tous les supporters lillois.
C'est ce qu'espère Ludovic Blas aussi, qui aimerait bien passer un cap, même s'il se sent bien à Nantes. Les discussions avancent. Nantes aimerait 20 millions d'euros. On est aux alentours de 15 a priori dans les discussions. Il n'y a pas d'offre ferme. C'est évidemment un gros dossier pour les Nantais. Et l'autre derby, Arnaud, que tu évoquais, c'est évidemment ce Rennes-Lorient, avec une équipe de Lorient qui elle aussi repart avec de nouvelles bases. Hein,
pas de zéro, mais
révolution. Ouais, quasiment une petite révolution, puisque exit Christophe Pélissier, fait Régis Lebris, qu'on va découvrir, formateur extrêmement bien coté dans le monde du foot français. 46 ans, jeune entraîneur qui a fait ses classes notamment au Stade Rennais et ensuite au centre de formation de Lorient. Un coach qui a des idées, qui parle bien, qui est moderne, qui a l'adhésion de ses joueurs chez les jeunes et a priori également chez les pros. Mais voilà, il faudra peut-être du temps avec des nouvelles têtes aussi. M. Vogo dans les buts, un international suisse. Il y aura des jeunes Yongois qui vient de Niort. Bref, là, il va falloir que ça prenne, alors que du côté de Rennes, on a toujours l'ossature offensive, puisque l'équipe n'a pas bougé offensivement, l'équipe qui jouait bien. Donc, l'équipe de Genesio semble évidemment plus près, avec une autre info qui est tombée ce soir, c'est que le Roazhon Park sera bien à guichet fermé, 28 500 spectateurs pour le derby.
Roazhon Park, anciennement stade de la route de Lorient, évidemment, on s'en souvient. Direction les Hauts-de-France, Gibault, avec deux matchs. Ils joueront à 15h, le Racing Club de Lens et Lille, Lens contre Brest et Lille contre Auxerre. Dans quel état sont les Lillois?
Bah écoute, on n'a pas eu énormément d'infos puisque c'est demain la conférence de presse, mais je peux vous dire que sur la séance d'entraînement que j'ai vue mardi dernier, on sent des joueurs bien impliqués, notamment Gudmundsson, hein, qui a marqué plusieurs buts. Alors bon, c'était c'était un entraînement devant le public. Lille, c'est un petit peu l'inconnu, hein, parce qu'il y a eu pas mal de changements, un nouveau projet avec des joueurs, beaucoup de joueurs en fin de contrat, hein, comme Jonas Martin qui est arrivé de Rennes, un petit Paris avec Rémi Cabella, Zlatka, Mohamed Bayo qui a été la plus grosse recrue, 14 millions d'euros, 2 millions d'euros aussi pour le jeune brésilien en provenance d'un club de D2, Alexandro, un jeune brésilien. On verra ce que ça donne plutôt pour la défense centrale, même si ça sera normalement Diallo Fonte durant toute la saison, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, on le rappelle, pour Lille, hein, qui était champion de France il y a un peu plus d'un an de cela. Et puis ça s'est un petit peu accéléré là au niveau du mercato, avec Ismaili qui a été officialisé hier, alors joueur que connaît Paulo Fonseca, qui a entraîné le Shakhtar Donetsk, qui était libre, ce jeune brésilien, il a 32 ans quand même, mais latéral gauche.
gauche. C'est ce que voulait l'entraîneur portugais, doubler les postes sur les côtés. Et aujourd'hui, Bafodé Diakité, qui vient de Toulouse, jeune joueur de 21 ans, mais qui a déjà fait plus de 80 matchs en pro, un peu de Ligue 1 et pas mal de Ligue 2, qui est polyvalent au niveau défensif. Bien sûr, alors ils seront présentés d'ailleurs, le Brésilien Ismaili et Diakité demain midi. On en saura un petit peu plus pour les connaître. Hein, match dimanche
et genre,
à 15h.
Rapidement, Lens, parce qu'on n'aura même plus de place pour Julien à Montpellier sur les Lensois, Lens-Brest.
Eh ben écoute, Lens, tout va bien, entre guillemets. Hein, stade à guichet fermé pour Brest. On se rapproche des 38 500, c'est assez hallucinant. Brest qui a quand même battu deux fois Lens la saison dernière. Alors forfait Gael Kakuta, Frankowski qui est incertain, Buxa, la nouvelle recrue polonaise, lui, ça sera pas avant septembre. En revanche, pour Grady, tout va bien. Donc voilà, une équipe qui va tenir la route. Et Seko Fofana qui est venu en conférence de presse, bah, il est toujours lensois. Et ça sent plutôt bon, parce qu'on a l'impression qu'il se sent bien à Lens et que les grosses offres...
Et ça, alors, ça va être une belle nouvelle. Si les supporters lensois...
Il reste un petit mois, mais voilà, ça, c'est quand même assez étonnant que ce soit pas fait, un départ de Fofana. Peut-être qu'il n'a pas eu l'offre dont il espérait.
Et pour terminer, Montpellier 3 à la Mosson à 15h. Montpellier, le vilain petit canard de la fin de saison dernière, Julien.
Ouais, le vilain petit canard aussi des matchs amicaux, hein. 5 matchs amicaux au mois de juillet, 5 défaites. Les Montpellierains n'ont plus gagné depuis le 20 mars. Ça fait quand même 12 matchs, 12 défaites et 2 matchs nuls. Alors Olivier Dalloglio a tenu à rappeler que voilà, c'était des matchs de préparation avec beaucoup de décès, beaucoup de travail physique notamment pour être en forme. Donc il n'est pas trop inquiet. Il a eu le soutien de Laurent Nicolin. Bon, c'est jamais bon signe souvent des fois quand on entend ton président de soutien, mais du côté de Montpellier, voilà, c'est quand même encourageant quand Laurent Nicolin accorde ta confiance. Mais voilà, c'est vrai que le mois d'août pour les Montpellierains va être très important, avec la réception, tu l'as dit, de Troyes, la réception d'Ajaccio, la réception d'Auxerre, c'est-à-dire que les trois promus viennent à la Mosson durant ce mois d'août. Donc évidemment, les Montpellierains doivent prendre des points
et
assez rapidement
au PSG,
dans cette
je
saison.
Entre-temps, au Parc des Princes.
Entre-temps,
en plus,
évidemment. Oui. Bon, je pense que le PSG, pas grand monde va le cibler, mais dans une saison avec quatre descentes, réussir ton mois d'août est évidemment capital. Ouais. Et on découvrira probablement dimanche le jeune Enzo Château, fils de Bill Château, qui est passé du côté de Montpellier, international camerounais, et qui devrait être titulaire au poste de latéral droit. Ça sera la petite découverte dimanche après-midi du côté de la Mosson.
Merci Julien, à suivre sur RMC, le multiplex, dimanche 15h. Vous connaissez les habitudes. Merci messieurs, merci Olivier Giraud. C'était un plaisir de t'accompagner pour cette intégrale sport. Rotten sans flamme revient lundi 18h, et tout de suite sur RMC, c'est l'after live avec Gilles Berbébois, la première journée de Ligue 1, Lyon-Ajaccio. Très bonne soirée.
RMC
Intégral Sport.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.